Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Ici Sébastien Dhaune, bibliste. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Êtes-vous prêt? Avec moi, on s'aventure dans les pages les plus étonnantes, mais aussi les plus intéressantes de la Bible. Vous avez probablement déjà entendu de la sainte colère de Jésus au Temple. Bien, aujourd'hui, on va en parler, mais on va aussi aborder une autre colère de Jésus. Imaginez-vous qu'il va se fâcher contre un pauvre figuier qui ne porte pas de fruits. Le problème, c'est que c'est même pas la saison des figues. Pourquoi est-ce que Jésus va le maudire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis si vous pensez que le figuier est symbole de quelque chose d'autre, bien, vous êtes sur la bonne voie. On en parle cette émission. Bonne écoute. En commençant l'émission, j'aime toujours vous donner la parole. J'ai reçu une question de Kim qui, suite à un de mes commentaires où je mentionnais un mot grec, se demande quelles sont les langues que parlait Jésus et dans quelle langue on a écrit les évangiles. D'abord, bon, le plus facile, c'est les évangiles. Les quatre évangiles ont été écrits en grec. Tous les manuscrits qu'on a, tous les vieux manuscrits, sont écrits en grec. Pourquoi le grec? Ben, c'est tout simplement parce que c'était la langue internationale de l'époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. À l'époque de Jésus en Palestine, on retrouve principalement trois langues. Il y a l'araméen, l'hébreu et le grec. On a trouvé quelques traces de latin, mais c'était beaucoup moins utilisé qu'on le pense, parce que la langue de l'administration de l'élite, c'était bel et bien le grec. Les gens qui habitaient les villes qui étaient proches de la Méditerranée et les Juifs de la diaspora, les Juifs qui vivaient en dehors d'Israël, parlaient également le grec. Mais à l'intérieur des terres, et surtout en Galilée, à la partie où Jésus vivait, mais les gens parlaient l'araméen. Les villageois de Galilée ne parlaient pas vraiment le grec ou le latin ou autre chose, c'était l'araméen qui était leur langue. L'hébreu, ben c'était surtout la langue sacrée, celle des rituels funéraires, celle des prières, celle des anciens textes de la Bible. Est-ce que Jésus parlait hébreu? Ben c'est moins clair. On n'a pas vraiment d'indices pour le dire. Certains diraient que peut-être qu'il parlait pour pouvoir lire les textes de l'Ancien Testament. On ne le sait pas. Une chose est sûre, c'est que Jésus parlait bel et bien l'araméen. Dans les évangiles, on le voit utiliser des expressions typiquement araméennes, comme « talitakum »,« ephata », ou même Marie de Magdala va s'adresser en lui en disant « rabouni », qui veut dire « maître » en araméen et non hébreu. Alors, ou même à la fin de sa vie, le fameux cri « Eloi, Eloi, lama sabachthani », c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen, bien que les deux langues soient quand même assez proches. Donc, on retient que Jésus parlait araméen. Peut-être qu'il parlait un peu de grec pour faire des affaires, parce qu'il y avait quand même une ville très importante proche de Nazareth, à quelques kilomètres seulement, Séphoris, une grande ville hellénisée. Puis pourtant, on voit jamais Jésus, on n'entend pas Jésus aller vers cette ville-là, ni parler grec ou latin dans ces endroits-là. Donc, on retient que Jésus parlait araméen. D'ailleurs, vous savez, c'est quoi son nom, Jésus, en araméen? C'est Yeshua. Alors, son vrai nom, ça serait Yeshua. Et les évangiles, comme on le disait tout à l'heure, ont été écrits en grec, la langue qui était la langue internationale de l'époque. Merci à Kim pour cette question. J'espère que ça a éclairé un petit peu tout le monde. Alors, n'hésitez pas à faire comme elle. Écrivez-nous à auditoire@radiovm.com pour nous faire parvenir vos commentaires et vos questions. Thank you. connaissez-vous les Saintes Colères de Jésus? Bien, le lendemain de son entrée triomphale à Jérusalem, qu'on célèbre au dimanche des Rameaux, Jésus y a faim et il semble se venger sans raison sur un pauvre figuier sans figues. Voici l'histoire, c'est tiré de l'Évangile de Marc, chapitre 11, les versets 12 à 14 et les versets 20 à 21. On écoute ça.
Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il dit, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant, lui dit, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Jésus leur répond et dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que c'est ce qui arrivera, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes.
C'est quand même assez particulier. On voit Jésus ici qui se sert de ses pouvoirs de façon, ça nous semble abusif ou même irrationnel. Parce que l'Évangile précise que c'est même pas le temps des figues. C'est donc normal que Jésus trouve pas de figues sur l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il maudit ce figuier-là? Est-ce que c'est juste un simple caprice de sa part? En fait, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre ça. La fonction de ce récit, c'est de provoquer des questions au lecteur ou à la lectrice qui lit ça et qui trouve que ça n'a pas de sens. Alors, il faut donc chercher ce sens-là. À première vue, Jésus ressemble ici à une espèce de sorcier redoutable qui fait ce qu'il veut. Marc ne cherche pas à cacher cette étrangeté dans ce moment-là. Au contraire, il y met de l'avant. D'ailleurs, la précision que ce n'est pas le temps des figues, ça indique qu'il faut comprendre le texte autrement. Il faut le comprendre comme un symbole. Qu'est-ce qui est symbolisé par ce figuier sans fruits que Jésus va maudire et qui se dessèche? Le récit du figuier stérile est séparé en deux. La narration qu'on a lue, c'est d'abord les versets 12 à 14, puis il y a les versets 20 à 21 qu'on a lus ensemble. Mais entre ces deux parties-là, on retrouve la scène de la colère de Jésus au temple. Et c'est ça qui va nous intéresser pour nous aider à trouver c'est quoi le symbole du figuier, qu'est-ce que ça veut dire. Alors écoutons d'abord cette colère au temple qui est un peu entre les deux récits de la colère contre le figuier. Alors on écoute ça et on en reparle.
Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? » Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville.
Ce qui nous étonne dans ces deux récits qui sont juxtaposés, c'est que Jésus est en colère, il est réellement en colère, alors que d'habitude, il est assez calme et paisible. C'est quoi l'objet de cette colère-là? Pour comprendre le récit du figuier, il faut voir dans le figuier un symbole du temple. C'est là la clé de lecture. Son absence de fruits, c'est l'image de la stérilité du temple et des institutions juives en général. Comme il avait maudit le figuier, Jésus fait la même chose en chassant les vendeurs du temple et en renversant les tables de change. D'ailleurs, on trouve dans l'Ancien Testament des textes qui utilisent le symbole du figuier rendu stérile pour exprimer la colère de Dieu à l'égard de son peuple. Or, on voit ça dans plusieurs prophètes, il y a Osée, Joël, Habacuc, Michée même. Mais je vous lis très rapidement, celui qui est le plus proche de notre situation, c'est Jérémie, au chapitre 8, le verset 13. Je vous le lis. Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier. Le feuillage est flétri. Je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » Dans cet extrait, le prophète Jérémie s'adresse aux prêtres du Temple de Jérusalem et leur dit la colère de Dieu qui les compare à un figuier flétri sans fruit. Il annonce qu'il va laisser passer et écraser ce figuier-là. Puis dans le contexte, le figuier détruit annonce la destruction du Temple par les Babyloniens. Dieu va laisser l'armée étrangère détruire le Temple à cause de ses infidélités, à cause des infidélités de son peuple, dis-je. Mais dans l'Évangile, le figuier stérile va jouer le même rôle symbolique. Les premiers chrétiens ont peut-être compris la destruction du Temple par les Romains en l'an 70 et la réponse négative des Juifs à leur prédication en utilisant l'image du figuier qui est détruit parce qu'il ne porte pas les mêmes de fruits. Alors vous voyez, il y a vraiment un rapprochement à faire entre la destruction du Temple par les Babyloniens et la destruction du Temple par les Romains en 70. On prend la même image du figuier stérile pour essayer d'expliquer ça. Pour la suite des choses, on va regarder la dernière partie du récit qui parle de l'efficacité de la prière et c'est le texte qui suit la colère au Temple. Et on va voir s'il y a des figuiers stériles aujourd'hui, symbole de ce qui est stérile dans nos vies et même ce qui est stérile dans notre Église. Ici Sébastien Daune, vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux colères de Jésus, contre le figuier et contre le temple, qui se trouvent enchâssées dans un récit qui entremêle les deux. Et on a vu qu'il y a un lien à faire entre les deux, puisque les deux textes sont entremêlés et que le figuier du premier texte, c'est comme une figure symbolique du temple. Donc, la colère de Jésus, c'est la même colère contre ce temple, contre les institutions qui ne bougent pas, qui trouvent qu'ils n'ont pas de sens. Okay? Ce qui suit ces colères-là, c'est la fin du passage, c'est les versets 22 à 26, qui interprètent l'histoire du figuier comme une parabole sur l'efficacité de la prière. Alors, Jésus va parler de la prière à partir de ça. Comme la parole de Jésus sur le figuier a été efficace, ainsi, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça, c'est Marc, chapitre 11, verset 24. Je reviens en arrière, le verset 23, je vous le lis. « En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » Marc, chapitre 11, verset 23. Donc, les versets 23 et 24 qui terminent ce passage sur la colère du temple, ça porte sur l'efficacité de la prière. Le verset 23, on parle d'une colline, d'une montagne qui est déplacée par la foi. Souvent, on va parler de ce texte-là en parlant justement, en mettant l'accent sur la foi. Là, je vais mettre l'accent sur la montagne. Quelle est cette montagne? Bon, le récit ne le spécifie pas, mais le contexte dans lequel on voit ces quelques versets-là, c'est la colère de Jésus au temple. Donc, on est au temple. Et le temple, c'est sur la colline de Sion. Peut-être que ce texte-là, c'est pas écrit dans le texte-là, mais peut-être qu'on peut comprendre que Jésus fait référence au mont Sion sur lequel est construit le temple. Et si on fait cette identification-là, bien, le temple, cette montagne, le temple, on peut comprendre que Jésus nous dit que c'est le lieu du mal qu'il faut jeter à la mer. Alors, il dit, si avec notre foi, on croit qu'on peut aller jeter cette montagne dans la mer, ça va arriver. Alors, le lien devient intéressant entre cette parole-là qu'on vient de lire et celui des ports des monts de la semaine passée, là, de la dernière émission, qui se jetait à la mer, qui était le lieu du mal. Dans le récit du figuier desséché, c'est la foi en Dieu qui permettrait de jeter le temple à la mer. La foi en Dieu, à la manière de Jésus, qui remet complètement en question tout, qui remet en question le temple, qui était pourtant l'institution religieuse, économique et politique la plus importante et la plus sacrée pour le peuple juif. Le récit du figuier invite donc les disciples à passer d'un culte qu'on pourrait dire sclérosé au temple à un nouveau culte à Dieu le Père. Jésus les invite à passer d'un temple qui est fait de mains d'homme à un autre, qui n'est pas fait de main d'homme, comme le dirait Marc au chapitre 15, verset... j'ai marqué 58 dans mes notes, mais c'est impossible. Le lieu saint n'est plus le temple, mais le cœur des humains qui sont en communion avec Dieu. À l'époque de Jésus, le temple représentait presque l'antithèse de la religion authentique, en tout cas selon ce qu'il nous dit. À l'époque, les prêtres exigeaient le paiement pour des sacrifices précis pour entrer en relation avec Dieu, puis pour demander son pardon. Alors que Jésus, lui, de son côté, annonce un pardon qui est complètement gratuit. Le pardon de Dieu est gratuit. Le temple, avec ses prêtres, ses changeurs, ses animaux à acheter, à sacrifier, devenait donc inutile pour ceux et celles qui suivaient Jésus, puisque le pardon de Dieu est gratuit, puis ultimement, seul compte la relation qu'on a avec le Père. On peut comprendre que pour les autorités du temple, la parole de Jésus devient menaçante, même au niveau économique. On comprend mieux l'une de leurs raisons de faire tuer Jésus un petit peu plus tard dans l'Évangile. Si le message de Jésus est réellement accepté, plusieurs personnes au temple pourraient perdre leur emploi et surtout perdre leur pouvoir. Les grands prêtres et les scribes veulent faire mourir Jésus, qu'on entend dans les textes de Marc, mais eux-mêmes sont déjà comme le figuier. À quelque part, sont desséchés jusqu'aux racines. Ils n'ont pas cette intériorité. Les racines de leur relation avec Dieu sont mortes. En tout cas, c'est l'interprétation que Jésus nous invite à faire. Avec tout ça, la grande question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des figuiers sans figues ou des temples dénaturés comme au temps de Jésus? C'est vrai qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de figuiers. On ne voit pas ça dehors. Mais il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre comment cette image peut nous aider dans notre questionnement sur l'Église actuelle. On a vu la volonté de Jésus de renverser l'institution religieuse de son époque parce qu'elle était sclérosée. L'Église qui s'est formée à la suite de Jésus, peut-être qu'elle est devenue elle-même, elle est devenue elle-même une institution religieuse. C'est devenu une institution. En soi, ce n'est pas un problème. Mais d'ailleurs, c'est cette institution qui a permis la transmission du message de Jésus jusqu'à nous. Mais avec le temps, est-ce qu'elle serait devenue semblable au temple de jadis? Je pose la question. L'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'elle porte encore des fruits? Est-ce qu'il y a des aspects qui pourraient déclencher une nouvelle colère de Jésus s'il était ici dans nos temples modernes? Comment est-ce qu'on peut comprendre la baisse marquée de la fréquentation des baptisés aux célébrations? La mort d'une certaine Église qui portait pas de fruits, est-ce que ça serait voulu par Dieu? C'est des questions qui sont difficiles à porter et à poser pour une question comme pour une personne, dis-je, comme moi qui fait partie de cette Église-là. On peut trouver une certaine forme d'espérance peut-être dans ce récit qui se termine par l'efficacité de la prière et de la foi qui peut déplacer des montagnes. Chacun, chacune, personnellement, pourrait aussi se poser les mêmes questions. Est-ce que moi, je porte du fruit? Suis-je desséché? Est-ce que ma foi pourrait déplacer des montagnes? On connaît cette déchirure en nous, hein? D'un côté, on veut faire le bien, porter du fruit, mais de l'autre, il y a une certaine force d'inertie qui nous garde dans l'inaction et dans la stérilité. L'outil nécessaire pour déplacer nos problèmes, devenus des montagnes, c'est pas une pelle. Ce qu'il nous faut, selon le récit du figuier, c'est de faire confiance en Dieu, c'est la foi. Le temps passe vite, c'est déjà le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que la colère de Jésus nous a réveillés un peu pour nous questionner et se demander ce qui est stérile en nous et dans notre Église. Si vous avez apprécié ces réflexions, je vous suggère le livre « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Vous avez des réactions, questions, commentaires, écrivez-nous. C'est auditoire@radiovm.com ou par le courrier ou le numéro de téléphone habituel de la station. Lors de la prochaine émission, on va parler d'un personnage très insolite. Vous le connaissez peut-être pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant. On en parle très brièvement. C'est simplement un nuvite. Ben oui, je vous le jure. Allez lire l'arrestation de Jésus dans l'Évangile selon Marc et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui s'enfuit tout nu. On en parle la prochaine fois. En terminant, merci à Marie Laferrière pour ses lectures et merci à Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine.